Chapitre 35. 12 000 mètres au-dessus du plateau de Tarsis.
Que dit Proust à propos des ballons?
Pas grand-chose,
répondit Orfudio.
En règle générale, les voyages ne le passionnaient guère. Que dit Shakespeare à propos des ballons?
Manmuth ne releva pas.
J'aimerais bien que tu vois ça,
dit-il.
Je l'aimerais aussi. Décris-moi la scène.
Manmuth leva les yeux.
Nous sommes à une altitude suffisamment élevée pour que le ciel au-dessus de nous vire quasiment au noir, passant au bleu nuit, puis à une nuance plus claire à mesure qu'on se rapproche de l'horizon, lequel est indubitablement incurvé. Je vois la couche atmosphérique dans toutes les directions. Il y a toujours des nuages au-dessous de nous. La lueur de l'aurore les colore d'or et de rose. À l'arrière, la couverture nuageuse s'est dissipée et je distingue jusqu'à l'horizon oriental les eaux bleues et les falaises rouges de Valles Marineris. À l'ouest, la direction que nous avons prise, la quasi-totalité du plateau de Tarsis disparaît sous les nuages. On dirait qu'ils veulent étreindre la Terre. Mais les trois volcans les plus proches émergent de leur masse dorée. On aperçoit d'abord Arcia Mons à l'extrême gauche, puis Pavonis Mons et finalement Ascraeus Mons à l'extrême droite, c'est-à-dire au nord. Ils sont tous les trois d'un blanc étincelant, car la neige et la glace brillent de mille feux sur leur cime.
« Peux-tu voir Olympus ?» demanda Orphu.
Oh, « oui. Bien qu'il soit le plus éloigné, Olympus Mons est le plus grand objet à portée de vue, et son sommet est perceptible au-delà de l'horizon. Il semble se dresser entre Pavonis et Ascraeus. Lui aussi est pris dans les neiges, sauf en son sommet que l'aurore colore de rouge.
« Vois-tu Noctis Labyrinthus, là où nous avons quitté les Aix ?»
Manmuth se pencha par-dessus la balustrade de la nacelle qu'il avait fabriquée et regarda derrière eux.
Non, les nuages sont trop abondants. Mais tout à l'heure, pendant que nous prenions de l'altitude, j'avais une vue imprenable sur l'ensemble de ce paysage chaotique, y compris les docks et les carrières. Par-delà le port, le labyrinthe de canyons et de falaises effondrées s'étend sur des centaines de kilomètres vers l'ouest et sur plusieurs vingtaines vers le nord et le sud.
Il n'avait pas cessé de pleuvoir durant les derniers jours de leur périple. Il pleuvait encore quand ils étaient entrés dans le port de Noctis Labyrinthus, et il pleuvait toujours lorsque Manmuth avait assemblé la nacelle nouveau modèle, gonflé le ballon et décollé au-dessus de ce qui apparaissait bel et bien comme une ville de PHV. L'un des ex, pour utiliser le terme par lequel il se désignait, était venu lui offrir son cœur d'interprète, mais Manmuth avait poliment refusé. Peut-être qu'ils n'étaient pas des individus, et donc ne mouraient pas vraiment, ainsi que l'affirmait Orphu, mais ils ne pouvaient plus supporter la sensation de vider l'un d'entre eux. Toutefois, les ex avaient vite compris ce que Manmuth était en train de faire, et ils s'étaient empressés de l'aider à fixer les amarres, à étaler l'enveloppe du ballon au cours du gonflage, et amarrer solidement la nacelle, travaillant avec autant d'efficacité qu'une équipe d'ouvriers qualifiés.
« À quoi ressemble le ballon ?»
demanda Orphu. Le grand Moravec était arrimé au centre de la nacelle, maintenu en place par plusieurs mètres de cordes et par une armature conçue et réalisée par Manmuth. Près de lui, également protégé et sécurisé, reposaient l'engin et le transmetteur.
« À une gigantesque citrouille flottant au-dessus de nous, » répondit Manmuth.
Orphu émit son grondement d'hilarité.
« As-tu jamais vu une vraie citrouille ?»«
Bien sûr que non, mais nous en avons vu des représentations, toi comme moi. » Le ballon est un grand ovoïde plus large que haut, d'environ 65 mètres sur 50. Il est parcouru de renflements verticaux, comme une citrouille, et il est orange.
« Je croyais qu'il était recouvert d'une couche de furtivité, »
dit Orphu de toute évidence surpris.
« En effet. » Une couche de couleur orange. Apparemment, nos concepteurs Moravec n'ont pas envisagé la possibilité que nos cibles puissent être équipées d'yeux en plus de leur radar.
Cette fois-ci, le grondement d'Orphu évoquait franchement celui du tonnerre.
« Ça leur ressemble bien, »
remarqua-t-il.
« Les suspentes qui relient la nacelle au ballon sont en fulrène, »
poursuivit Manmuth.
« Elles font une quarantaine de mètres de long. »
« Et elles sont solidement attachées, j'espère. »
Aussi solidement que possible, mais j'ai peut-être oublié de serrer deux ou trois nœuds.
Orfu gronda une dernière fois, puis fit silence. Manmut s'abîma dans la contemplation du paysage. La nuit était tombée lorsqu'Orfu reprit le contact. Les étoiles scintillaient à peine, mais bien plus que celles auxquelles Manmut s'était habitué sur Europe. Phobos boulait dans le ciel à basse altitude et Déimos venait de se lever. Nuages et volcans reflétaient la lueur des astres. Au nord luisait l'océan.
On est arrivé ?
S'enquit Orfu.
Pas encore. Compte encore une journée, voire 36 heures.
Le vent souffle toujours dans la bonne direction ?
Plus ou moins.
Pourrais-tu être plus précis, mon ami ?
Nous filons vers le nord-nord-ouest. Nous risquons de rater Olympus Mons d'un cheveu.
Ça, c'est du pilotage. Rater un volcan grand comme la France.
C'est un ballon que je pilote, répliqua Manmut. Je présume que Coros III comptait décoller de la base du volcan, pas d'une distance de 1200 kilomètres.
Un instant. Ce n'est pas au nord d'Olympus que se trouve la mer de Tétis.
Manmut poussa un soupir.
C'est pour cette raison même que notre nouvelle nacelle est en forme de bateau.
Tu ne m'as pas précisé ce détail durant sa construction.
Cela ne me semblait pas pertinent à ce moment-là.
Ils flottèrent en silence quelque temps. Le ballon s'approchait des volcans de Tarsis et Manmut estima qu'ils arriveraient au niveau d'Ascraeus le lendemain vers midi. Si le vent continuait ses caprices, il le contournerait par le nord, passant à une vingtaine de kilomètres de ses flancs. Il n'avait même pas besoin de se mettre en mode vision nocturne pour s'émerveiller de la beauté de ce paysage volcanique éclairé par la lune et les étoiles.
« J'ai réfléchi à cette histoire de Prospero et de Caliban »,
dit soudain Orfu. Manmut, perdu dans ses pensées, eut un petit sursaut.
« Oui ?»
fit-il.
« Je présume que tu es parvenu aux mêmes conclusions que moi. » Ces effigies de Prospero, les références faites par les PHV, tout cela résulte de la passion shakespearienne de quelques démiurges humains ou post-humains.
Rien ne nous permet d'affirmer avec certitude que ces têtes de pierre représentent Prospero, fit remarquer Manmut.
Certes, mais c'est ce qu'ont suggéré les PHV, et je ne crois pas que les ex nous aient jamais menti. Peut-être sont-ils incapables de mentir. Du moins quand ils communiquent avec toi comme ils le font, par transfert de paquets de nanodonnées.
Manmut ne dit rien, mais tel était aussi son sentiment.
Donc,
reprit Orfu,
ces milliers de têtes de pierre entourant l'océan boréal.
Et la mer d'Hellas au sud,
ajouta Manmut se rappelant les images captées en orbite.
Oui, donc, ces milliers de têtes de pierre ont un rapport avec les personnages de Shakespeare.
Manmut hocha la tête, sachant qu'Orfu l'aveugle interpréterait son silence comme un assentiment.
« Et si ce démiurge était autre que Prospero ?»
dit Orfu.
« Plutôt qu'un quelconque humain ou post-humain. »
« Je ne comprends pas. »
Manmut eut un doute. Il contrôla le débit des bonbonnes arrimées près de l'engin. Orfu et lui étaient correctement branchés et alimentés en oxygène.
Qu'entends-tu par « et si ce démiurge n'était autre que Prospero ?» Tu penses qu'un post-humain s'est amusé à jouer le rôle du mage et a oublié que ce n'était qu'un rôle ?
Non, je veux dire « et si c'était vraiment Prospero ?»
Manmut devint carrément inquiet. Orfu avait été commotionné, aveuglé, frappé de radiations ionisantes et salement secoué par leur chute dans l'océan. Peut-être était-il en train de perdre la raison.
« Non, je ne suis pas fou !»
dit soudain l'Ionien d'une voix dégoûtée.
« Écoute-moi jusqu'au bout. »«
Prospero est une création littéraire !»
énonça Manmut en détachant les mots.
« Un personnage de fiction. »« Si nous le connaissons, c'est grâce aux banques de mémoire sur l'histoire et la culture humaine que les premiers Moravecs ont emporté dans leur bagage il y a 2000 années de cela !»«
Oui !» fit Orfu. « Prospero est un personnage de fiction. » Et les dieux grecs sont des mythes. Leur présence ici s'explique par le fait qu'il s'agit d'humains ou de post-humains en costume. Mais si tel n'était pas le cas, si c'était vraiment Prospero, si c'était vraiment les dieux grecs.
Manmut commençait à paniquer. La perspective de poursuivre cette mission tout seul, sans la présence amicale d'Orfu, le terrifiait. Mais jamais il n'avait imaginé qu'il se retrouverait avec un Orfu aveuglé, paralysé et dément. Pourrait-il se résoudre à l'abandonner une fois qu'ils auraient atterri? Comment ces dieux, en baptisant ainsi ces types en toges pilotant des chars volants, pourraient-ils être autre chose que des mythes ou des post-humains perdus dans leur jeu de rôle? Demanda-t-il. Suggères-tu que ce sont des extraterrestres? Des martiens passés inaperçus lorsqu'on a exploré cette planète durant l'ère perdue? C'est cela?
Je ne dis qu'une seule chose. Et si les dieux grecs étaient vraiment les dieux grecs?
Répondit Orfu à voix basse.
Et si Prospero était vraiment Prospero? Et Caliban, Caliban? Quoique j'espère que nous ne le croiserons pas sur notre route.
Mouais? Non, voilà une théorie des plus intéressantes.
Ne me parle pas sur ce ton, nom de Dieu! Que sais-tu de la téléportation quantique?
Je connais ses soubassements théoriques, plus le fait que cette planète est saturée d'activité quantique.
Dis plutôt des trous.
Hein?
Comme des trous de verre. Lorsqu'un événement quantique est prolongé tel quel, ne serait-ce que quelques nanosecondes, on obtient un effet de singularité analogue à celui d'un trou de verre fixe. Tu sais ce que c'est qu'une singularité, pas vrai?
Oui,
fit Manmut, irrité à son tour par le ton que prenait son ami.
Je connais les définitions du trou de verre, de la singularité, du trou noir et de la téléportation quantique. Et je sais aussi que les trois premiers cités de ces phénomènes impriment une distorsion à l'espace-temps. Mais quel est le rapport avec ces dieux en toge et leurs chars volants, bon sang? C'est à des post-humains que nous avons affaire ici, à des post-humains probablement cinglés et dont l'évolution transcende la folie, mais à des post-humains!
Tu as peut-être raison, concéda Orfu, mais examinons une autre hypothèse.
Laquelle? L'apparition soudaine dans la réalité de personnages de fiction?
Sais-tu pourquoi les ingénieurs Moravec ont renoncé à développer le voyage interstellaire par voie de téléportation quantique?
Parce que celle-ci n'est pas stable, répondit Manmut. Tout porte à croire qu'il s'est produit un accident sur Terre il y a une quinzaine de siècles. Les humains ou les post-humains ont fait joujou avec les trous de verre quantiques, quelque chose a cloché, et ça leur est revenu en pleine figure.
Nombre d'observateurs Moravec pensent que c'est parce que quelque chose a marché que ça leur est revenu en pleine figure.
Je ne comprends pas.
La téléportation quantique est une technologie qui ne date pas d'hier, dit l'Ionien. Les humains à l'ancienne ont commencé à s'y intéresser dès le 20e ou le 21e siècle, avant que l'évolution de leur espèce débouche sur les postes, avant que tout dégénère pour de bon sur Terre.
Et alors?
Alors, l'essence de la téléportation quantique, c'est qu'elle ne peut pas déplacer des objets volumineux, rien de plus gros qu'un photon, et encore pas vraiment. Tu n'as droit qu'à l'état quantique complet d'un photon.
Quelle différence y a-t-il entre l'état quantique complet d'un être, d'une chose, et cet être ou cette chose?
Demanda Manmut.
Aucune. C'est ça qui est fabuleux. Téléporte un photon ou un percheron et tu obtiens une copie conforme au point d'arrivée. Une copie si conforme qu'on peut considérer qu'elle est le photon.
Ou le percheron, compléta Manmut.
Il adorait regarder des images de chevaux. Pour ce qu'en savaient les Moravec, l'espèce chevaline terrienne était éteinte depuis des millénaires.
Mais même si tu téléportes un photon d'un point à un autre,
reprit Orfu,
les lois de la physique quantique stipulent que la particule téléportée ne transporte aucune information avec elle, même pas celle qui concerne son propre état quantique.
Ce qui rend l'exercice assez vain, n'est-ce pas?
Phobos, qui avait achevé sa course rapide dans le ciel nocturne, disparaissait derrière le lointain horizon martien. Déimos avançait à une allure plus mesurée.
C'est ce que pensaient les humains des 20e et 21e siècles,
répondit Orfu.
Puis les post-humains ont fait joujou avec la téléportation quantique, d'abord sur Terre et ensuite dans leur cité orbitale, si c'est bien de cité qu'il s'agit.
Et ils ont eu plus de réussite? Nous savons pourtant que quelque chose a cloché il y a environ 1400 ans. à l'époque où la Terre a été secouée par une forte activité quantique.
Quelque chose a cloché, en effet. Mais ce n'était pas la téléportation quantique. Les post-humains, ou leurs machines pensantes, ont développé un moyen de transport fondé sur les particules intriquées.
De l'action fantôme à distance,
cita Manmuth. Il ne s'était jamais passionné pour la physique nucléaire, l'astrophysique ou la physique des particules. Bref, pour la physique en général. Mais les pics envoyés par Einstein à la mécanique quantique ne manquaient jamais de le réjouir. Einstein avait une véritable langue de vipère quand il s'agissait de critiquer les confrères ou les théories qui ne lui revenaient pas.
« Oui, » fit Orfu, qui semblait irrité de cette interruption. « Eh bien, l'action fantôme à distance fonctionne à un niveau quantique, et les post-humains ont déplacé des objets de plus en plus gros via leur portail quantique. »«
Y compris des percherons ?»
railla Manmuth, qui n'appréciait pas ce genre de cours magistral.
On n'en a pas gardé trace, mais les chevaux terriens sont bien allés quelque part, alors pourquoi pas? Écoute, Manmuth, je parle très sérieusement. Je n'ai cessé de réfléchir à ce sujet depuis que nous avons quitté l'espace jupitérien. Pouvons-nous nous dispenser de tes sarcasmes?
Manmuth tiqua au sens métaphorique du terme. Orfu ne lui semblait plus dément, mais il était bel et bien sérieux et vexé.
« D'accord, » dit-il. « Je te demande pardon. Continue. »
« Nous savons que les post-humains ont intensifié leur recherche quantique. En fait, il serait plus exact de parler de bricolage. À peu près au moment où nous abandonnions les nôtres, il y a 1400 années terriennes de cela. Ils perçaient des trous un peu partout dans l'espace-temps.
« Et excuse-moi, »
interrompit Manmuth de sa voix la plus douce.
Je croyais que seuls les trous noirs, les trous de ver et les singularités pures pouvaient faire une chose pareille.
Plus les tunnels quantiques laissés en état d'activation.
Mais je croyais que la téléportation quantique était instantanée.
Manmuth s'efforçait désespérément de comprendre.
Qu'elle devait être instantanée.
En effet. Quand on a affaire à une paire intriquée, qu'il s'agisse de particules ou de structures complexes, altérer l'état quantique de l'un des deux éléments modifie instantanément l'état quantique de l'autre.
Alors, comment peut-il exister des tunnels activés si le creusement du tunnel ne dure qu'un instant ?
Demanda Manmuth.
Crois-moi sur parole,
répondit Orfu.
Quand tu téléportes un objet relativement important, une part de fromage par exemple, la quantité d'informations quantiques aléatoires mises en jeu suffit à elle seule à perturber l'espace-temps.
Quelle serait la quantité d'informations contenue dans 3 grammes de fromage ?
10 puissance 24 octets,
répondit Orfu sans la moindre hésitation.
Et dans un être humain ?
En ne comptant que ses atomes et en laissant de côté sa mémoire, 10 puissance 28 kilooctets de données.
Ah, eh bien, ça ne fait que 4 zéros de plus qu'un bout de fromage.
Sainte Vierge, tu te mélanges dans tes unités. Et puis nous parlons d'ordre de grandeur. Ce qui signifie...
Je sais, je n'ai pas pu m'empêcher de dire une connerie. Continue.
Donc, il y a environ 1400 ans, les post-humains, et c'était forcément eux, car nos sondes ne recensaient qu'un millier d'humains à l'ancienne, soigneusement parqués à l'instar des derniers représentants d'une espèce en voie de disparition. Les post-humains, donc, ont entrepris de téléporter des gens, des machines et d'autres objets.
Où ? Je veux dire... Quelle était leur destination ? Mars ? D'autres systèmes stellaires ?
Non. La téléportation quantique nécessite un récepteur en plus d'un émetteur,
dit l'Ionien.
Ils se sont contentés d'envoyer ces spécimens d'un point de la Terre à un autre, ou dans leur cité orbitale. Mais ils ont été sacrément surpris quand ils se sont matérialisés.
Est-ce que c'est là qu'une mouche intervient dans l'histoire ?
Manmuth cultivait en secret une passion pour les vieux films datant du XXe siècle à la fin de l'ère perdue.
Une mouche ?
Répéta Orfu.
Non. Pourquoi ?
Peu importe. Quelle est cette surprise qui les attendait à l'issue de leurs expériences de téléportation ?
Primo, le fait que ça marchait. Secondo, et c'est nettement plus important. Lorsque la personne, l'animal ou la chose apparaissait au point d'arrivée, il était porteur d'informations.
des informations relatives à son propre état quantique, et d'autres informations dont il n'aurait jamais dû disposer, y compris une mémoire intacte en ce qui concernait les êtres humains.
Pourtant, si je t'ai bien compris, les lois de la mécanique quantique interdisent un tel phénomène.
En effet.
Encore de la magie ?
Demanda Manmuth, maintenant alarmé par la tournure que prenait le cours dispensé par Orfu.
On en revient à Prospero et aux dieux grecs, c'est ça ?
Oui, mais cela n'a rien à voir avec tes sarcasmes, déclara Orfu Dio. À l'époque, nos scientifiques ont pensé que les postes humains échangeaient des paires intriquées avec des objets, ou des personnes, provenant d'un autre univers.
D'un autre univers ? D'un univers parallèle, tu veux dire ?
Pas tout à fait. Rien à voir avec la vieille idée d'une infinité ou presque de réalité alternative à la nôtre. Je parle d'univers en nombre fini, et très peu élevé d'ailleurs. Des univers coexistant avec le nôtre, mais en déphasage quantique avec lui.
Manmuth ne comprenait strictement rien aux propos de son ami, mais il garda le silence.
Pas seulement des univers quantiques coexistants, poursuivit le grand Moravec, mais des univers créés.
Créés ? Répéta Manmuth. Par Dieu ?
Non, par des actes géniaux, par des génies.
Je ne comprends pas.
Déimos s'était couché. Les volcans martiens étaient visibles à la lueur des étoiles, leurs flancs envahis de nuages pareils à des amibes gris pâles. Manmuth consulta son horloge interne. Plus qu'une heure avant le lever du soleil. Il avait froid.
Tu sais ce qu'ont découvert les chercheurs humains il y a des millénaires, quand ils étudiaient l'esprit humain, reprit Orfu, avant que le facteur post-humain entre dans l'équation. Nos propres esprits de Moravec sont conçus à l'image du leur, bien que notre matière cérébrale se partage entre l'artificiel et l'organique.
Manmuth fouilla dans sa mémoire.
Les scientifiques humains utilisaient des ordinateurs quantiques dès le 21e siècle,
dit-il,
pour analyser les cascades biochimiques dans les synapses humaines. Ils ont découvert que l'esprit humain, pas le cerveau, l'esprit, ne ressemblait pas à un ordinateur, à une machine mémorielle chimique, mais plutôt à...
« À un front d'ondes figées en état quantique », compléta Manmuth. « La conscience humaine existe avant tout en tant que forme quantique, exactement comme le reste de l'univers. »
« Et tu dis que c'est la conscience elle-même qui a créé ces autres univers ?»
Manmuth suivait la logique de ce raisonnement, si on pouvait parler de raisonnement, mais il était choqué par l'absurdité totale de sa conclusion.
Pas une banale conscience, dit Orfu. Des consciences d'un genre exceptionnel, qui sont pareilles à des singularités en ce sens qu'elles ont le pouvoir de distordre l'espace-temps, d'affecter son organisation et de causer l'effondrement des ondes de probabilité sous la forme d'alternatives discrètes. Je parle de gens comme Shakespeare, Proust, Homer.
Ça relève purement et simplement de...
Du solipsisme.
De la stupidité la plus foncière.
Suivirent plusieurs minutes de silence. Manmuth pensa qu'il avait froissé son ami, mais cela n'avait guère d'importance. Au bout d'un temps, il demanda
« Tu t'attends à découvrir les fantômes des vrais dieux grecs au sommet d'Olympus Mons, c'est ça ?»«
Pas des fantômes, non, » répliqua Orfu. « Mais tu as vu les relevés quantiques. Les occupants d'Olympus, quels qu'ils soient, ont percé des trous quantiques un peu partout sur ce monde. Et Olympus est le centre de leur activité. Ils vont quelque part. Ils viennent d'autre part. La réalité quantique de cette zone est si instable qu'elle risque bel et bien d'imploser, emportant avec elle un morceau de notre système solaire.
Tu penses que c'est là la fonction de l'engin ? Déclencher l'implosion de ces champs quantiques avant qu'il n'ait atteint une masse critique ?
Je ne sais pas. Peut-être.
Et tu penses que c'est ça qui a semé la merde sur Terre et poussé les post-humains à s'exiler dans leur cité orbitale il y a 1400 ans de cela ? Un échec quantique ?
Non,
répondit Orfu.
Je pense que ce qui s'est passé sur Terre avait un rapport avec la téléportation quantique, mais résultait d'un succès plutôt que d'un échec.
Que veux-tu dire ?
L'espace d'une seconde, Manmuth se demanda s'il avait bien envie de connaître la réponse à sa question.
Je pense qu'ils ont ouvert des tunnels quantiques sur une ou plusieurs de ces autres réalités,
répondit Orphu.
Et qu'ils ont laissé entrer quelque chose.
Ils flottèrent en silence jusqu'à l'aube. Le soleil commença par effleurer le sommet de leur ballon, conférant au matériau orange un éclat irréel et faisant luire tous les câbles en fulrène. Puis il atteignit les trois volcans de Tarsis, illuminant leur parure de glace et coulant le long de leurs flancs tel un flot de lave lente. Puis l'astre du jour inonda les nuages de rose et d'or et éclaira la mer intérieure de Valles Marineris depuis l'horizon oriental, la faisant ressembler à une faille de couleur de lapis-lazuli ouverte dans la terre. Olympus Mons accueillit le soleil une minute plus tard, et Manmuth contempla l'immense pic qui semblait se lever à l'horizon occidental, pareil à un galion aux voiles sang et or. Puis le soleil éclaira un objet plus proche et plus élevé.
« Orphu !»
émit Manmuth.
« Nous avons de la visite !»«
Un char volant ?»«
L'objet est encore trop loin pour que je l'identifie, et la lueur du soleil interfère avec ma vision. »
Que pouvons-nous faire si c'est bien un meneur de char? As-tu déniché une arme dont tu ne m'aurais pas parlé?
Tout ce que nous pouvons lui jeter, ce sont des quolibets.
Manmuth gardait les yeux fixés sur l'objet brillant. Celui-ci était fort rapide et ne tarderait pas à arriver sur eux.
À moins que tu ne tiennes à ce que j'active l'engin,
ajouta-t-il.
Je crois qu'il est encore un peu tôt,
répondit Orphu.
Bizarre que Koros III soit venu sans armes.
Nous ignorons ce qu'il avait emporté avec lui dans le module de commande. Au fait, ça me rappelle quelque chose.
Quoi donc?
Souviens-toi que nous avons évoqué la mission secrète de Koros dans les astéroïdes il y a quelques années de cela.
Oui.
L'appareil reflétait toujours l'éclat du soleil levant, mais Manmuth vit nettement qu'il s'agissait d'un char tiré par des chevaux holographiques lancés au galop.
Et s'il ne s'agissait pas d'une mission d'espionnage?
Dit Orphu.
Pardon?
Les Moravec des Roches disposent d'une capacité que nous autres, Moravec des Cinq Lunes, n'avons jamais pris la peine de cultiver.
L'agressivité? Le mauvais caractère?
Exactement. Et si Koros III n'était pas allé là-bas en espion, mais en...
Je te prie de m'excuser, mais notre invité arrive. Un colosse humanoïde dans son char.
Une succession de banques supersoniques résonna autour de Manmuth, faisant frémir l'enveloppe du ballon. Le char continua de décélérer. Il fit le tour du ballon en maintenant avec lui une distance de 100 mètres.
« C'est l'homme qui nous a accueillis en orbite ?»
demanda Orphu. Sa voix était parfaitement calme. Manmuth considéra sa carcasse impuissante ficelée dans la nacelle, dépourvue des yeux qui lui auraient permis d'observer les événements.
« Non, »
répondit-il.
« Ce dieu grec-là avait une barbe grise. Celui-ci est glabre et bien plus jeune. » Il semble mesurer 3 mètres de haut.
Manmuth leva la main droite, la paume tournée vers l'extérieur, un antique signe de bienvenue conçu pour montrer qu'il n'était pas armé.
Je crois qu'il...
Le char se rapprocha. L'homme qui le pilotait tendit son poing droit, le fit osciller de droite à gauche. Le ballon explosa au-dessus d'eux, l'hélium se dissipant dans l'atmosphère à mesure que la toile s'embrasait. Manmuth s'agrippa au rebord de la nacelle pour ne pas être précipité dans le vide, tandis que la masse tourbillonnante composée par la toile en feu, les câbles de fulrène et la nacelle en forme de bateau tombait vers le plateau de Tarsis, 13 000 mètres plus bas. Le petit Moravec se retrouva en chute libre, cul par-dessus tête, retenu à la nacelle par ses seuls doigts tétanisés, lorsque la plateforme en bois se mit à tourner sur elle-même. Le char, tiré par ses chevaux spectraux, passa à travers l'enveloppe en flammes. L'homme, le dieu, qui le pilotait, agrippa dans son énorme main le câble en fulrène noir. C'était impossible, c'était grotesque, mais au lieu de lui arracher le bras par le seul effet de son poids de plusieurs tonnes, la nacelle s'immobilisa dans un sursaut et l'homme l'atteint à bout de bras. De sa main libre, il donna un coup de rein pour faire repartir les chevaux. Traînant derrière lui la nacelle et ses passagers, qui ballottaient 40 mètres au-dessous de lui, le char fit demi-tour et fonça plein ouest en direction d'Olympus Mons.